bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, merci d'être au rendez-vous avec Leïla Kaddour.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Coucou Nagui.
Albert Alcou.
Bonjour.
Frédéric Cyril. Bonjour. Frédéric Cyril au signal tout à l'heure. Tanguy Passureau, nos invités Céline Salette et Romain Duris. Merci d'être là tous les deux au rendez-vous de cette bande originale, émission qui porte extrêmement bien son nom pour Vernon Subutex. C'est une bande originale incroyable. Il y a de la zig du début jusqu'à la fin, mais et un jeu de musique très important parce que tout est une histoire de musique et tout est l'histoire de ce roman de Virginie Despentes. Déjà, évidemment, la première question qu'on a dû vous poser 25 milliards de tonnes de fois.
Bah, la pose pas, là.
Aviez-vous lu le roman avant de jouer et avant d'accepter le rôle, Céline Salette?
Moi, j'ai une grande admiration pour Virginie Despentes et son œuvre. J'avais lu Apocalypse Bébé, j'avais lu
Baise-moi.
Non, j'avais lu King Kong Theory, qui est un manifeste absolument sublime, incroyable et profondément bouleversant. Et j'étais passée à côté de Vernon sans l'ouvrir parce que j'étais dans un moment de ma vie où je croyais que c'était sombre et j'avais pas très envie de plonger dans ce que je pensais être. Quelque chose d'assez
sombre. On sort pas toujours indemne d'un livre de Despentes, en fait.
Mais c'est une ambiance, quoi. C'est un bain. Donc, il y a des fois des pays où on n'a pas envie d'aller.
C'est ça.
Et en fait, non, mais c'est un a priori. Et en fait,
c'est une belle image de voyage, ouais, c'est vrai.
Et exactement. Quand je l'ai lu, j'étais passionnée aussi par...
Romain, vous l'aviez
lu?
Moi,
pareil, il était fermé sur une table. Pas pour les mêmes raisons, mais il était là. C'est ma sœur qui m'en avait parlé au départ, il y a longtemps. Elle m'a dit, tiens, regarde, c'est un personnage qui pourrait être beau au cinéma. Et elle a eu raison. Donc, il était fermé. Dans un coin.
C'est fou, ça.
Ouais.
C'est fou. L'histoire d'un disquaire vinyle que vous interprétez, Romain Duris. On va en parler dans quelques instants parce que il y a cette toile de fond très, très, très musicale. L'histoire donc d'un DJ, vendeur de vinyle qui, évidemment, avec ce qui se passe dans le monde de la musique, c'est-à-dire la fin du vinyle et l'arrivée des CD, se retrouve expulsé et dans une espèce de descente aux enfers sociales. Et tout ça avec une autre toile de fond, celle d'Alex
Beach,
c'est ça?
Beach.
Oui, bah, évidemment, pour bien son nom. D'Alex Beach qui se suicide en laissant un testament vidéo et qui devient là une véritable enquête policière qui pourrait se faire dans n'importe quel autre milieu avec plein de personnages qui viennent s'entremêler. On va en parler, ça dure pendant 9 épisodes.
9 épisodes de 30 minutes en gros.
Sur Canal, tu les as vus?
Ouais, j'ai adoré.
C'est vrai.
Formidable.
Mais déjà, avant même
vraiment,
de les avoir vus, tu disais, il y a Vernon Subutex qui arrive sur Canal. Tu fais partie des mecs qui attendent.
Colossal.
Ça commence.
Non, mais j'aimerais qu'on s'arrête quand même sur ce moment où Daniel Morin a été complètement enchanté par quelque chose.
Ouais.
Voilà.
Mais ça c'est deux fois.
Pour les séries.
La semaine dernière aussi.
Ouais. Je suis pas d'accord. Non, là t'es là, c'est de la vanne à deux balles.
Non. Si vous m'invitez pas au moment où il se passe des trucs.
Ça sera le 8 avril prochain, 21h sur Canal. Céline Salette, Laurent Lucas, Flora Fischbach que nous avons reçu dans Taratata était venue. Ah ouais, Fischbach était venue chanter aussi dans Taratata. Cette réalisation de Cathy Vernet, j'ai oublié Philippe Robot qui est juste dingue, Florence Thomasin qui est ingérable, mais que j'adore, tellement elle est folle, folle, dingue, déjantée. Juana Acosta, Émile Gavoy-Kahn, Ataya Mukonzi, Julie Fournier, Calypso Valois, musique aussi avec Calypso Valois, enfin bref, un très beau casting avec une bande originale dont nous allons reparler. Mais d'abord... Question concernant nos invités. Certains adorent l'affaire, la télé, on fait même des programmes, mais Céline, ça l'ennuie.
La promo.
Cuisine.
La
cuisine.
Exactement. Oh. Ça l'ennuie, la cuisine. J'adore la phrase.
Oh. Ben, ouais. Quand est-ce que j'ai dit ça?
Dans Elle, il y a un an.
Ça m'en... Hein? Ben ça m'ennuyait la cuisine.
J'ai du mal à comprendre les gens qui adorent cuisiner. Moi, ça m'ennuie.
Mais c'est faux. J'adore cuisiner maintenant. J'ai changé complètement à ce point.
Ah oui, non, mais
c'était quand?
Il y a un an.
Ah bah voilà.
Mais
enfin, je dis vraiment n'importe quoi.
Mais ça, c'est bon à savoir dès le début de l'émission.
Hein. Ouais, bien sûr. Bah sachez-le. Vous êtes un peu habitué quand même.
Ça va. Oui.
Finalement, à force.
Ok, donc on passe à. Vous aimez cuisiner quoi d'ailleurs? Quel genre de
Ben, je fais plein de trucs. J'ai acheté un omnicuiseur.
Allez,
c'est l'instant publicité. Instant publicité.
Les seuls ordinateurs, enfin, reliés à une application, c'est ça?
Non, pas du tout.
Ah,
ça
pardon.
Cuit à basse température. Et c'est un truc qui cuit à...
C'est un sac, non?
Pas un sac, non. Un plat.
D'accord.
Un plat qui va dans un four à ondes, pas ondes, pas micro-ondes, un...
Vapeur.
Comment ça s'appelle?
Chaleur tournante.
Je sais plus. Non plus.
La pyrolyse.
Infrarouge. Voilà,
ah oui,
ça vit aux
infrarouges. Oui, c'est un truc très, très moderne. Alors,
c'est pour cuisiner la nuit.
En fait, c'est vieux. Je crois que c'est assez vieux.
Infrarouge, je crois pas. Hein. Franchement, si vous me dites qu'à l'époque de la guerre du feu, il y avait des fois infrarouges.
Standard dès la préhistoire.
Ça permet quoi? De garder les vitamines dans les aliments, c'est ça?
Oui, exactement.
D'accord, très bien.
Et Romain, un truc à dire sur le sujet, peut-être?
J'admire les légumes vapeur, moi. Je les regarde.
Passion vapeur.
Bah tiens, justement, à propos de la santé de Romain Duris.
Je suis en bonne santé.
Les deux sports dans lesquels il se débrouille plutôt bien.
Le karaté.
L'aïkido. Non.
Un art martial?
Non.
Et la pétanque?
Tu sais pas.
Non.
Le curling.
Yoga.
Non. Alors c'est plutôt... on n'est pas sur la glace,
le
mais...
Ski.
Voilà, le ski. Premier sport, le ski. Deuxième sport.
Le bobsleigh.
Non.
Patinage.
Le
sport d'équipe ou sport individuel?
Sport...
individuel, je suis acteur.
Ou...
Le tennis.
Tennis.
Alors,
l'aviron.
Ping-pong.
Exactement. Exactement.
Ah, vous savez des vrais trucs, hein, ici.
Albert et Daniel marquent les points. Ski et ping-pong.
Snowboard plutôt, parce que je me suis mis au snowboard assez tôt.
Sachant que vous faites de votre physique un atout, c'est pas dangereux le ski, le snowboard, de se blesser,
paraît,
de
se... Mais comme le scooter à ce moment-là.
Vous avez le droit? Parce qu'on sait, que certains comédiens.
Non mais. Dire là, je sais
surtout
pas,
les sportifs.
Oui, parfois on ne sait pas. C'est...
Non mais normalement,
on va pas
t'as pas le droit
non plus de la montagne. Et moi, c'est un bol d'air. Hein. C'est pas que je veux dire, c'est pas qu'une planche sur laquelle on fait le con. C'est de la montagne, c'est de l'aventure le ski. Je trouve que c'est dingue comment c'est dépaysant.
Ce que vous aimez, c'est quoi? C'est le sentiment aussi de vitesse?
Ouais,
la
vitesse, la neige,
la
et les reliefs et la beauté de la montagne. Quoi. C'est un trip.
Est-ce que vous aimez le silence à la montagne?
Aussi.
Donc, je comprends pas. Et à la radio, vous aimez ça,
le silence? Je comprends pas les gens qui mettent de la musique.
Qui mettent des casques? Ouais, qui mettent des. Qui
non, les casques surtout pas, parce que je trouve ça très dangereux, comme en scooter d'ailleurs. Il faut entendre s'il n'y a pas des gars qui arrivent de.
Mais bien sûr.
Et la musique dans les endroits, j'ai jamais compris trop. Ouais.
Mais je suis d'accord, le silence à la montagne, c'est quelque chose de magique.
Ouais.
Concernant, alors j'espère que ça va être juste cette fois-ci, parce que Céline, toutes nos informations ne sont pas fausses. Lors d'une rencontre, d'un entretien, d'un pot, d'une bouffe, n'en dites pas plus, avec Jacques Audiard, il vous a parlé pendant 20 minutes. Mais de quoi Jacques Audiard a parlé à Céline Salette?
De la cuisson vapeur.
Impossible de deviner, n'essayez même pas.
C'est vrai?
Non.
C'est pas la cuisson vapeur.
C'est un lien avec la cuisine.
Du sport, de
l'alimentation,
de la santé, de
c'est le problème de transit.
Du sommeil,
il y a un côté bien-être avec la nutrition.
Alors je ne sais pas. Alors il y a un rapport
de
avec l'alimentation.
Je ne sais pas
quelle qualité a-t-il trouvé à cette alimentation là. Ou au contraire, quel scandale veut-il dénoncer sur cette alimentation?
Le vegan. Crudivore,
je
sais pas
quoi. C'est marrant, je dis ça.
À l'origine du
vegan,
corps.
Les mecs, hein.
Il a parlé du régime du corps.
Il parle d'une alimentation, mais quelle forme d'alimentation?
Paléo, je sais pas quoi.
L'alimentation spirituelle.
Micronutrition.
Liquide.
Jacques Audiard a été récompensé pour un film de
Le Prophète.
Voilà.
Oui.
Ah
non.
Dans les westerns, il y a des.
Spaghetti.
Non, oui.
Non. Des haricots?
Non.
Qu'est-ce qu'il y a?
Des haricots, des cactus.
Non!
Oh, ça m'a amusé il y a 10 minutes cette émission.
La viande de cheval.
Voilà! Merci. Oh. Boucherie chevaline. Mais passer 20 minutes à parler boucherie chevaline avec Jacques Audiard,
c'était extraordinaire. C'est-à-dire
j'avais parié de le faire un jour.
Ouais, moi je sais. Non, en plus, lui, il racontait l'histoire de la boucherie chevaline avec des dates. C'est-à-dire, il disait, ça a commencé, on a commencé à tuer, à faire
à manger
des chevaux.
Nos chevaux quand?
Ouais, là, en Belgique, telle année. Enfin, moi, je me rappelle plus, mais.
Et parce qu'il l'aime ou parce qu'il trouve ça scandaleux?
Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, je lui ai dit, mais pourquoi il y a ça dans l'ordinateur? Et il m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a des choses dans son disque dur et c'est.
Il a parlé des lasagnes à la viande de cheval.
Des lasagnes à la viande de cheval. Un jour, Romain Duris a cru vivre la révélation divine, mais ça s'est vite arrêté. Pourquoi?
Il a rencontré un prêtre.
Pas loin.
Une apparition,
le pape,
une sorte
un confesseur.
De...
Pas loin.
Il a été à Lourdes, il a vu la Vierge pleurer.
Non, il a eu peur de quelque chose.
D'un prêtre.
Mais quand il était adolescent. Non, c'est un rapport avec.
Avec l'église,
oui.
Dans une église.
Non.
Il a vu quelqu'un qui n'était plus. Il a vu la.
Non. Non. Il a vu un type qui marchait sur l'eau et qui s'est noyé.
Non.
Il a lu.
Il a eu une illumination et il a eu peur. À 13 ans, il a eu peur de quoi?
Du diable,
après une apparition.
Non. D'être possédé.
Du diable, d'aller en enfer.
D'être possédé.
Non.
De Dieu, de Jésus.
De devenir curé. De...
Voilà. C'est ça. C'est ça.
Ah, de rester puceau.
On revient d'ailleurs. On revient d'ailleurs.
Oh, non. Alors là, tu te trompes.
On revient à la montagne parce que vous avez.
Vous savez tout. Non.
Vous avez cru en. C'est Dieu qui me l'a dit. Vous avez cru en Dieu.
Ouais, j'avais 10 ans, 9 ans, je crois, un truc comme ça.
En haut d'une montagne, en fait.
Bah, c'est-à-dire que j'associais toute la beauté et l'émerveillement à quelque chose de mystique, donc de Dieu.
Mais Dieu est dans la nature.
Et du coup, ouais. Je suis redescendu très vite en courant, flippant de devenir curé.
Donc j'ai dit, il a eu peur d'un prêtre, c'est presque
non,
ça.
Non, il a peur de devenir, c'est
oui,
pas pareil.
C'est pire.
C'est pas,
ouais.
Mais, oh là, c'est pas pareil.
Ouais, d'ailleurs, vous avez incarné un super prêtre.
Léon Morin,
ouais. Ouais, absolument.
Vous étiez c'était agréable de jouer un prêtre
troublant.
En soutane.
Ouais.
Quel est le livre de chevet de Céline Sallette?
Elle en a qu'un.
Ou qu'elle était, qu'elle était il y a 2-3 ans, 4 ans pardon.
Les recettes de Ginette Maillot, Mathieu, là, le truc, la cuisine pour tous, non?
Non.
La Bible.
Mais moi je sais pas.
Non.
Un auteur français?
Un journal, alors, un magazine.
Alors, c'est un dictionnaire ah, c'est... sur.
Le dictionnaire de Laurent Baffy.
Sur les enfants. Non.
Les synonymes.
Non.
Dictionnaire de. Ouais.
Du sport.
Du théâtre,
dictionnaire
du cinéma.
Franco-anglais.
Qui pourrait peut-être expliquer une sorte de phobie chez elle.
Mais qu'est-ce que j'ai bien
fait? Des animaux, des maladies.
Exactement.
Le dictionnaire des malaises et des maladies.
Des malaises et des maladies.
Ah ouais.
Vous êtes hypochondriaque.
J'ai parlé de ça ou pas?
Pourquoi vous avez ça?
Mais à qui j'ai parlé de ça? C'est absurde.
Au Figaro.
Mais non.
Si.
Pour revoir le plan de com', hein, Céline.
Ouais. Ouais. Pas du tout.
C'est ma coiffeuse maquilleuse, une véritable fée,
ouais,
qui m'a donné le grand dictionnaire des malaises et des maladies
c'est
de Jacques
illuminée.
Martel.
C'est sublime cette vision de moi.
Dit comme elle ça donne pas envie, mais il y a plein d'explications. Qu'avez-vous trouvé dans ce livre qui vous a rassuré?
Ben, par exemple, sur le chapitre des cernes et des poches sous les yeux, j'ai trouvé c'était assez remarquable.
Des astuces?
Ouais.
Alors c'est comment on combat la cerne bleutée, c'est ça?
Ouais, non, là, ça, je peux pas, c'est trop long.
D'accord.
C'est vraiment, faisons une émission à part entière pour aborder le sujet.
Non, mais apparemment, ça intéresse Céline, en tout cas. Elle a le conseil.
Non, pas tellement de cerne.
Au-delà de l'histoire de Vernon Subutex, qu'est-ce qui a fait que Romain Duris se sentait particulièrement à l'aise pendant le tournage de la série?
Il n'a pas besoin d'être maquillé.
Non.
Il est venu avec sa musique.
Si, mais non, je sais pas.
Non.
Il était bien payé.
Il était à Paris, il était pas loin de la maison, il pouvait rentrer.
Exactement.
Il pouvait dormir à la maison. Ouais.
Enfin, c'est
j'aime bien les films ailleurs aussi.
Non, c'est le quartier dans lequel vous tourniez, pour être précis, les Buttes Chaumont, qui a un écho particulier pour vous.
Parce qu'il est voisin.
Bah oui. Vous habitez pas dans le coin?
Si, pas loin, ouais.
Bah non, mais enfin, c'est ce que là aussi encore, c'est
là,
ce que.
Le...
Non, mais non. Le Paris de Belleville du 20e, je connais bien les Buttes-Chaumont, les quartiers où je.
Mais
où
c'est
je
des beaux. Enfin, de toute façon, tous les quartiers dans Paris sont beaux, mais il y a de l'âme, il y a quelque chose qui se passe dans la rue, donc on peut facilement s'imprégner et le rendre dans les scènes. Il suffit d'observer.
C'est, les coins et les recoins aussi, les
ouais.
L'autre vie dans
c'est
la ville.
C'est des quartiers où il y a plein de poésie, je trouve, dans Paris. Le 20e, le 19e, enfin, c'est des choses qu'on connaît pas forcément. Et des petits recoins dont vous parlez, il y en a plein et ils sont très... Je sais pas, il y a une beauté là-bas.
Cette reprise de Cash, elle est dingue. Wall of Voodoo, mais la BO, elle est folle. Ça sont les Tubbs. Si je le passe, c'est parce que c'est sur ce premier vinyle que vous allez vous raccrocher quand vous êtes expulsé de votre local de disquaire en disant de toute façon j'ai une édition limitée ou
un test pressing
voilà des Tugs, donc tu sais ce que ça vaut ça mec, c'est un truc de dingue et le gars il se dit mais j'ai un trésor et donc je suis presque millionnaire en ayant ce vinyle.
Bah parce qu'il a pas beaucoup d'affaires en plus, donc il a quelques affaires sacrées dont il veut pas se séparer, donc c'est vrai que ça vaut de l'or
pour lui. parce
oui,
que
il trouve ça dommage que oui,
il va pas devenir il va pas devenir millionnaire avec, je veux dire, c'est pas voilà.
Bien sûr.
Il pense que ça vaut de l'or et c'est le début du commencement de la fin, c'est-à-dire à la fois c'est quelqu'un qui existait avec un réseau de copains. On se demande s'ils sont de vrais ou de faux amis. Ils étaient là pour pouvoir écouter de la musique, boire un coup,
fumer. À l'époque, c'était des vrais amis, je pense, parce que on le voit dans des flashbacks.
Peut-être qu'ils étaient aussi intéressés parce que c'était un point de repère et quand il n'a plus son
c'était un rassemblement, ouais. Ils se retrouvaient autour du rock dans ce magasin de disques. Et on voit dans des images qu'il se marrait bien.
Ouais, ça avait l'air d'être une génération désintéressée. C'était vraiment le.
Il le dit, on mangeait pas de viande, on regardait pas la télé. Ouais. On en avait rien à foutre du bio, on était rock.
C'est le début d'ailleurs, il dit pendant 6 ans, j'ai pas regardé une seule fois la télé, on pensait qu'à la musique.
Ouais. Donc on sent que voilà, ils ont partagé quelque chose de pur.
Pourtant, ses potes, quand il va se retourner vers eux et quand il en a besoin, certains seront là peut-être pour 24 heures, 48 heures, mais pas plus.
Vous avez grandi, tout le monde a grandi, tout le monde
mais
a changé.
Mais ils recroisent tous ces gens et il y a, c'est, y a plein de nostalgie, il y a plein
en
de.
En direct, j'aime bien.
Il y a plein de mélancolie.
On est revenu à aujourd'hui.
Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit triste pour autant. Enfin, à son contact de ce gars qui va du coup recroiser toutes ces personnes, les gens se sentent, se remettent en question, font une remise à zéro de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils ont perdu ou gagné par rapport à ces années passées.
Déjà, ils repartent en arrière une période où ils étaient heureux. Déjà, quand ils le voient.
Ça renvoie quelque chose de positif. Ouais.
Ouais, moi, je pense que c'est positif.
Et puis, alors, arrêtez-moi si je sais plus, parce que comme j'ai vu les 9 épisodes, je sais plus qu'est-ce qu'il y a dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans machin. Le concert d'Alex, c'est au tout début quand même.
Les trois premiers.
C'est dans le 2, je crois.
Ouais. C'est dans le 2. Ouais. D'accord. Donc je peux aussi raconter qu'il y a. Non, c'est l'arrivée d'Ayen qui est intéressante. C'est pour ça que je veux parler de ce concert et du personnage joué par Laurent Lucas. C'est-à-dire qu'il y a donc une star de la musique du moment qui donne un concert et surtout qui envoie un petit mot à un producteur de cinéma en disant ce soir, mon gars. Je balance tout. Point de suspension. Et là, panique. Ce gars en question, Laurent Lucas, vous envoie un texto à vous, Céline Salette, qui interprétait la Ayen en disant j'ai besoin de toi, il faut que tu interviennes. Et c'est une faiseuse et de réputation.
Une arme fatale de la communication.
Voilà, c'est là que vous débarquez. Cheveux courts, tatoués, rocker aussi.
Motarde,
ouais.
Quel bon personnage.
Ouais.
Non, mais déjà, rien que son nom est monstrueux. La Ayen. Et c'est une femme qui vit selon ses propres règles, selon ses propres lois et qui est en toute liberté. Un peu mercenaire, un peu pirate, quoi. Mm-hmm. Et qui est employé là par un producteur pour.
Pour détruire, enfin pour faire taire en tout cas.
Pour faire taire ponctuellement ce type. Alors après, elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette menace et tout ça. Et puis cette enquête va lui permettre de creuser et de se rendre compte que c'est peut-être pas si anodin.
Ouais, c'est en ça qu'elle est mercenaire, c'est-à-dire qu'elle demande pas la raison pour laquelle, la justice elle s'en fout. Ouais. En réalité,
elle n'a pas tellement de morale.
Voilà, elle exécute la mission et elle est payée pour ça.
Ouais. Elle s'arrête de poser des questions quand on la paye plus.
Oui.
La question s'arrête et bim.
Elle tombe amoureuse du personnage joué par Flora Fischbach, Anaïs.
La jeune stagiaire de
la série. Voilà. Et elle est vraiment c'est la Ayen au sens étymologique du terme. Quoi. Elle a une proie.
Bien sûr. Il y a ça, c'est ça qui est sublime dans le personnage. C'est un personnage qui pratique la domination, qui exerce le.
Mais en douceur, je trouve. C'est ça qui est beau. Tu lui donnes de la douceur.
T'appelles ça en douceur. Vous appelez ça en douceur, Romain.
Elle aurait pu l'aborder plus frontal, un truc un peu nerveux. Et je trouve que Céline, elle la ramène pas.
Mais elle voit à qui elle a affaire et elle l'attire tout doucement.
Ouais. Mais d'autant qu'elle est extrêmement violente avec d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est là où il y a.
Elle peut tout à fait communiquer avec des mandales, oui.
Non, mais elle dit que c'est que comme ça qu'on a des réponses.
Ouais, rien de tel que la violence pour bien communiquer.
Oui, parfaite cette phrase. Après un bon coup de boule. C'est ça.
Ouais. Et Vernon Subutex, avec ce nom quand même venu de nulle part, parce que c'est le nom d'une star de rock, Vernon Subutex, quoi. C'est, ça pourrait être un pseudonyme d'un chanteur de rock.
Ou de cachet.
Voilà. Ouais, c'est vrai.
Ou de toxico. Ouais.
C'est vrai. se retrouve lui en possession d'un testament vidéo. Il y a quand même plusieurs intrigues qui vont finir par se croiser pour un final presque avec une morale d'ailleurs au neuvième et dernier épisode. Mais lui se retrouve avec ce testament sans même se rendre compte de la valeur marchande, donc en tout cas ou de
oui puis émotionnellement c'est quelqu'un qui est dedans. Il est à fleur de peau parce que ce chanteur de rock disparaît et du coup il a ses cassettes, il peut pas les regarder, il est trop sensible. Donc c'est vrai qu'il y a ces chemins parallèles entre l'intrigue dans laquelle joue Céline de recherche, et tout le monde recherche ses cassettes, lui il les a dans un blouson et il peut pas les regarder.
Ouais, et pour lui c'est même, il y a même pas un testament, pour lui il y a du son, il y a le fameux son alpha qui arrive dessus et il se dit mais il y a des sons quoi,
comprend pas très bien ce
qu'ils
qu'il
ont tous
il
à voir,
il sait qu'il y a quelque chose de précieux mais il veut pas regarder.
Mais pour vous c'est une fiction musicale, c'est une fiction policière, c'est une fiction sociale,
mais il y a les trois.
Ouais.
C'est ça qui est bien, je trouve.
Vous pouvez parler dessus, hein,
Ok, d'accord. Non, mais voilà, il y a de la musique, il y a du social, il y a l'enquête qui nous tient en haleine, et c'est pour ça que c'est réussi, c'est que tout se mélange bien.
Ouais. Dans le fond, il y a l'œuvre de Despentes qui est quand même c'est ça. Profondément poétique, mystique. C'est en ça aussi que la série elle est très particulière. On n'est pas que trivial dans des faits d'enquête ou dans même des faits de société. Il y a cet homme qui descend à la rue, il va rencontrer aussi le ciel, le profond de l'existence. Et il y a aussi des mots de Despentes dans la série. Il y a aussi sa façon de nous raconter, nous, humains, en tant que fragiles, précaires profondément. Et c'est cet humain-là qu'elle arrive à toucher, à peindre. Il y a des personnages qui sont ignobles et on les aime quand même. Enfin, il y a une profondeur dans le.
Ah ouais, carrément. Et puis il y a une lumière à la fin. C'est pas une descente aux enfers.
Stricto sensu.
Frontale.
Non, il y a même une révélation pour lui d'ailleurs.
Il atteint un état sans dévoiler la fin, et il y a une espèce de mystique, enfin quelque chose qui le tient en l'air, qui tient le monde en l'air.
Alors Subutex, d'après un spécialiste, c'est un substitut à l'héroïne, nous dit-on.
Oui,
ah, je savais pas, d'accord.
C'est notre rédacteur en chef, ancien toxicomane, qui a résisté.
JNB, il sait.
Et qui sert pour le sevrage. Maréchal Ganache, cette série est un succès annoncé sur Canal à partir du 8 avril, 21h.
Un succès d'autant plus considérable, mon cher Nagui, que cette série est impeccablement servie par des comédiens de première bourre, dont Salette Céline, mes hommages, madame, et Dury Romain, monsieur.
Duris.
Ah oui, Duris, Nagui. Vernon Subutex se déroule où ? À Paris ou à Paris ? À Paris. Bon. Chez vous, il y a des tapettes pour chasser les souris, mais pas les souris. Donc, en français, R-I-S, ça se prononcerait, à exception de pubis, pénis, cannabis, phimosis et syphilis, des mots que vous connaissez bien, Nagui. Bon, où j'en étais déjà ? Ah oui, Vernon Subutex, ici, là. Série palpitante, nouveau mystère de Paris, qui épisode après épisode se déploie comme une fresque romanesque d'une sauvage et poétique énergie, avec sa cohorte de personnages paumés, fragiles, désabusés, inquiétants ou maléfiques. Une série qui n'est pas avare de noirceur et de cruauté, de luxure et de déchéance, mais qui cache en son sein, in fine, une profonde humanité.
Wow.
Oh bon Dieu,
Maréchal.
Oh bon Dieu, je sais que vous en foutez, Nagui, mais j'aurais fait un critique littéraire de première bourre.
Ouais. Hein, première, je sais pas.
Oui. Bah, François Bunel peut se rhabiller. Bon, à ce propos, mon cher Nagui, Vernon, taisez-vous, a réouvert pour moi la boîte aux souvenirs. Moi aussi, jadis, comme le héros de cette série, j'étais en errance, barbu, crasseux, chevelu. Pas à Paris, mais en Indo. C'était en 1954, après la terrible déroute de Gang Bang Phoak, respectait mon passé. Fuyant les viettes, moi aussi je me suis retrouvé sans revolver. Le revolver n'était pas un magasin de musique de jeunes, mais c'était mon arme. Donc, ayant tout perdu et couvert de vermine, après avoir erré dans la jungle hostile, pensant échapper aux Viettes qui me traquaient, un soir, épuisé, je suis arrivé à l'œil de bronze, le cabaret fumerie tenu par Madame Suziwan. Pour me soulager, elle me boira une bonne pipe d'opium. Quand je me réveillais, j'étais enfermé dans une cage en bambou, à demi immergé dans un cloaque puant. Madame Suziwan travaillait pour les Viettes. Son nom de code, un nom monstrueux, le même que le vôtre, dans Vernon Subutex, Madame Salette, la hyène. J'entends encore son rire sardonique quand elle déversait dans cette fosse les énormes sangsues qui me vampirisèrent horriblement le fion. Depuis, ne riez pas, respectez ma différence, car depuis, je ne peux rester assis plus de 3 minutes d'affilée.
Ça, c'est une bonne
aussi,
nouvelle.
Vais-je vous quitter. Voilà, bonne émission.
Merci. Albert.
Midi sur France Inter.
Alors, j'ai pas lu le roman. Je me demandais si dans le roman les musiques étaient citées parce que la BO.
Oui, il y a beaucoup de musique dans le roman. Absolument, ça nous accompagne du début à la fin. D'ailleurs, moi, quand je l'ai lu, j'avais envie de constituer une playlist parce que ce que tu disais tout à l'heure, Céline, sur l'écriture aussi de Virginie Despentes, c'est que par la musique, elle nous fait pénétrer aussi dans un autre état. C'est aussi ça. Elle nous donne à voir les gens de la rue, ce personnage de Vernon qui a décidé quelque part de pas avancer, pas changer d'époque, parce qu'on a cette sensation-là qu'il est un peu resté coincé dans un autre temps, et que voilà pourquoi il comprend pas que...
C'est-à-dire qu'il a plein de révélations différentes, ouais. Qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles ou amicales, ouais. Il va de révélation en révélation. Romain,
ouais.
Je vous dérange.
Non, mais j'aime bien vous entendre parler de...
C'est gentil, oui, c'est mais ça vous cinéma. Pouvez le faire chez vous. Ça s'appelle la radio.
Non, mais c'est vrai que c'est un personnage qui appartient à tout le monde. Donc, ouais. c'est je veux dire, vous avez vu les livres, il vous a traversé.
Alors,
c'est,
vous lui avez apporté...
J'adore entendre vos
mots. Vous lui avez apporté quoi
à moi, je lui ai apporté de la vie, tout simplement. Je lui ai apporté, j'espère, des émotions. Non,
vous lui apportez un sourire.
Peut-être un sourire.
Vous lui apportez un sourire craquant. Non mais c'est vrai, un sourire craquant parce que
c'est des révélations pour Nagui.
Et il a non parce que je connais Romain pour l'avoir vu déjà dans beaucoup de films et dans la vie le en tout cas ici et le sourire que vous faites, vous lui donnez un sourire à Vernon Subutex bien particulier qui est un sourire un peu charmeur et j'ai presque envie de dire adolescent enfantin naïf.
Ben on avait envie avec Cathy Vernet la réalisatrice de garder une espèce de distance, même s'il se retrouve à la rue, même s'il lui arrive plein de choses pendant toute la série, il a une espèce de rectus, de quelque chose dans l'œil brillant,
c'est ça.
Qui est peut-être la vie, tout simplement, ou qui est un état d'esprit.
À quelqu'un qu'il aime ou à quelqu'un qu'il découvre pour la première fois,
c'est un rapport avec la musique, c'est un rapport avec l'espoir, c'est un rapport à... On est sur Terre et qu'il faut se démerder. Enfin, voilà, il a ça.
C'est son côté positif. Ouais. C'est ce qu'il envoie lui comme signal. Ouais.
Pas naïf, hein.
Non,
un petit recul sur les choses.
C'est ça. Et quand on voit la série ou quand on lit le roman, on pourrait se dire Vernon Subutex, c'est un héros magnifique, mais ça peut être un loser magnifique. Et finalement, on se dit et si je regardais le monde à travers les yeux de Vernon, est-ce que je changerais pas un peu de braquet? Est-ce que je me décalerais pas un peu pour regarder ce qui m'entoure, qui sont les gens qui sont là? Est-ce que c'est finalement pas lui qui d'une certaine façon a raison? Il a disques, ce trésor inestimable pour lui qui ne vaut rien pour les autres, mais est-ce que c'est pas lui qui a raison in fine?
Exactement.
Et moi j'ai trouvé que cette peinture de la société, elle est folle. C'est pour ça que c'est une œuvre moi qui m'a marqué. Enfin c'est une des plus belles lectures que j'ai pu faire vers Vernon Subutex.
De toute façon, il est entre deux mondes, il est ou perdu, ou il est libre. C'est ou l'un ou l'autre, la façon de le voir.
Mais au milieu de gens qui sont perdus eux-mêmes, en fait.
Tout le monde,
sont perdus.
Robot, il incarne ce mec qui n'est plus le punk d'antan, qui est en couple, avec complètement dominé par sa nana, qui est complètement assujetti à son enfant.
Je suis en train de me demander
est-ce que c'est le bonheur,
quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas vu la série, qui n'a pas lu le livre, comprend ce qu'on est en train de dire.
Je parle de Philippe Robot qui incarne un personnage qui est un ancien copain de Vernon Subutex avec qui ils ont fait les 400 coups,
qui lui s'est casé socialement.
Voilà, les destinées changent. On peut tous avoir ça en réflexe dans sa vie. Les gens avec qui on faisait la fête à 20 ans.
Il est totalement écrasé par sa femme.
Et son enfant aussi, d'une certaine façon, il est assujetti à tout.
Alors que c'était un rocker.
C'est un rocker, il est quasiment locataire chez lui, en fait. C'est-à-dire qu'il a à peine le droit de faire un peu ce qu'il veut, finalement.
Il a composé avec la réalité.
Plein de concessions. Est-ce que c'est lui qui a raison, ou est-ce que c'est pas Vernon qui se retrouve à galérer de canapé en canapé?
Après, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de jugement, je trouve, dans le...
Ouais. Non, ouais, mais...
Ils se rendent compte de où ils en sont, quoi.
Ouais.
Voilà. Ça s'appelle Vernon Subutex. Le mieux, finalement, c'est que vous regardiez.
Faites-vous une idée vous-même, regardez ça.
Exactement. Je tiens juste à vous prévenir. Une fois que vous aurez vu un épisode, vous serez obligé de voir les neuf. Voilà. Donc c'est à vous de décider.
Vous voulez pas vous engager, ne regardez pas le premier. C'est ça qu'on veut dire.
C'est-à-dire que on devient accro, pour employer une expression qui est très présente aussi dans le film, parce qu'il y a de, il y a l'alcool, il y a de la drogue, il y a du sexe, il y a de la musique.
Mais la vie.
Il y a tout. Non, d'accord. Okay.
Ouais, mais c'est pas violent, je trouve.
C'est drôle.
Et d'ailleurs, c'est drôle. Hein,
ouais, c'est très drôle. Ouais, ça.
Ouais, d'ailleurs, il faut dire aux gens, parce que si vous voulez regarder la série, elle est disponible sur Canal Plus Série. Et c'est un abonnement à la Netflix, mais le premier mois est gratuit.
D'accord.
Tu t'abonnes, tu te
désabonnes. Mais t'as été envoyé par qui, toi?
C'est-à-dire que souvent, on a des réflexions quand on parle d'une série qui passe sur Canal Plus ou Netflix. On dit, mais on peut pas y avoir accès. Et ben, en fait, si, vous pouvez regarder.
Elle n'est pas disponible tout de suite, me dit-on.
Pas tout de suite, mais disons que. Mais toi, ça dépend quand
Vincent,
vous vous abonnerez.
Vincent Bolloré t'a donné ses codes, donc.
Non, pas du tout. Tu sais bien que je ne suis pas un grand copain de Vincent Bolloré, mais simplement, j'aime les bonnes séries, c'en est une, donc il faut en parler.
Très bien. Voici Alexis Laurent.
Non, je vais pas vous parler de choses aussi profondes que Vernon Subutex. Je voulais juste vous dire, en fait, parce que hier je faisais du vélo, tu vois. Enfin, quand je dis je faisais du vélo, je veux dire je me déplaçais à vélo. Je fais pas du vélo comme activité, comme les gamins qui tournent autour du pâté de maison en accrochant des cartes dans les rayons pour faire des bruits de moto, tu vois.
C'est génial, ça.
Ouais, mais j'ai arrêté en 2017.
D'accord.
Mais je faisais du vélo et j'ai recrevé en roulant sur les pavés.
Non.
Encore. Pas toutes les semaines, hein.
Mais si, c'est.
Acheter une pompe.
Non. Les pavés, ça pardonne pas. Le pneu se coince et en 10 mètres, ton pneu, c'est la Belgique. Alors, c'est une métaphore. Ça veut dire que.
Il est à plat.
Il est plat, quoi.
Ok. Ouais.
Non, mais j'explique, parce que si t'as jamais écouté Jacques Brel, tu comprends pas la métaphore. Hein.
Non, c'est vrai.
Voilà. Bon, j'ai un peu hésité à vous raconter cette anecdote. Mais comme je crois que certains auditeurs apprécient la vacuité de mes chroniques, je peux pas les décevoir en racontant des trucs intéressants, tu vois. C'est comme vous, Nagui. Vous savez que vos fans adorent vos questions à rallonge. Et c'est pour ça que vous continuez. Sinon, vous auriez arrêté depuis longtemps. Pareil, quand vous nous interrompez pendant nos chroniques... Ben, moi, au début, ça m'a troublé. J'ai dit à Tanguy Pastureau, dis donc, ami chroniqueur de droite, Nagui fait toujours ça? Ou c'est qu'il a bu trop de thé vert? Il m'a dit, te formalise pas, il fait ça pour ses fans et tout. C'est dangereux d'avoir des fans, en fait, hein. Parce qu'on est vite prisonnier de ce qu'ils attendent de nous, quoi. C'est pour ça que moi, j'en ai pas. Bon, tout ça, ça nous fait pas un sujet de chronique non plus. Non. Mais je voulais pas attaquer direct en disant bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des femmes qui mangent le placenta de leur bébé. Quoi. Oh. Non, mais c'est ça le sujet que je veux traiter aujourd'hui. Donc, c'est un peu frontal.
Écoute.
Mais j'ai lu que ça, en fait, il paraît que ça se fait de plus en plus. À la base, c'était une pratique courante chez les jeunes mamans chinoises. Mais depuis peu, les américaines s'y sont mises. Et là, ça arrive en France. Voilà. Alors, ça ressemble à des rognons, mais ça se cuisine comme le poisson. Cru, cuit, frit ou même déshydraté. Il y a même un bouquin qui s'appelle The Placenta Cookbook, voilà, avec notamment le club sandwich au placenta ou encore les lasagnes au placenta.
Ça vous donne des idées, Céline?
Moi, ça m'a donné faim. Hein. Il y avait une béchamel magnifique, enfin, si tant est que c'était une béchamel. Et bref, paraît que c'est bourré d'hormones,
c'est
et de vitamines,
d'hormones.
Et ça permet aux jeunes mamans de récupérer beaucoup plus vite après un accouchement. Aux États-Unis, il y a même une maman qui a repris le travail 3 heures après son accouchement. Ouais. Incroyable. Bon, après, elle bosse à la poste, donc ça va, mais... En tout cas, ça devient très à la mode chez les célébrités américaines. En Chine aussi, mais les célébrités chinoises, bah, personne ne les connaît. Hein. À part Wan Wan et Yanzi, qui sont les pandas du zoo de Beauval, personne. Donc, je vais parler des stars américaines. Et parmi elles, il y a les sœurs Kardashian, qui ont mangé le placenta de leur bébé. Voilà. Bon, elles ont peur de rien. Depuis qu'elles ont donné leur cerveau à la science de leur vivant, elles osent tout, quoi. Demain, tu leur dis le cordon ombilical, ça peut se manger avec du guacamole et des nachos. Elles embauchent un chef mexicain, il fait pareil ça, toi. Hola, señora, ¿qué tiene su taco de placenta? Les tournois de tortillas, c'est
bon. Ah ouais,
Mexique. Bah oui, tu sais bien, 7 ans là-bas. J'ai pris l'accent. Parmi les autres stars qui ont mangé le placenta de leurs enfants, il y a Victoria Beckham et Hilary Duff. Je sais pas si vous voyez qui c'est une actrice de série pour ados qui a fait de la chanson après. C'est un peu comme Hélène Rollès, l'escorte du président chinois, là, mais version américaine. Alors, Hilary Duff, elle a opté pour le smoothie au placenta. C'est-à-dire de l'eau, des glaçons, du placenta et du sucre mixé. Et elle a trouvé ça tellement bon qu'elle a mis le reste au congélateur pour en profiter cet été. Alors moi, je juge pas la pratique, je donne juste de l'information.
Non, mais ça donne pas envie en tout cas.
Mais je suis pas médecin, je suis juste un type attiré par la cuisine exotique, moi. Donc, si vous vous dites, hey, le placenta du petit en smoothie ou à la plancha, ce serait pas mal pour cet été. Faites gaffe, par contre, parce que c'est pas autorisé en France de récupérer les placentas. Selon la loi, une fois l'accouchement réalisé, une femme n'est plus propriétaire du placenta. C'est comme une pomme tombée d'un arbre. En fait, elle n'appartient plus au propriétaire de l'arbre.
Le parallèle est sympa. Ouais. Voilà.
Donc, faut ruser. Par exemple, vous pouvez dire à la sage-femme que vous en faites des sacs à main ou des protections pour tablettes. Mais faut pas dire que vous allez le manger. Je préfère préciser parce que imaginez qu'une femme soit en train d'accoucher maintenant. En écoutant France Inter, bah, je veux pas être responsable d'une condamnation pénale. Quoi, oui. Tu vois. Déjà que j'ai du mal à assumer cette chronique. Bon, allez, bonne journée, messieurs. Bon appétit, si vous passez à droite. Merci. France Inter,
Midi, la bande originale. Et Alexis Le Rossignol, on te retrouve sur scène. Il faut que je retrouve le papier.
Les dimanches.
Tous les dimanches.
À 17h30 au point virgule.
Au point virgule, absolument.
Et c'est excellent, c'est vraiment très bien.
La bande originale de Céline Salette et de Romain Duris, vous écoutiez en 2006, Céline. Pussycat Dolls. Vous avez cette...
Bien ces chansons un peu, ouais, de...
De R&B, de danseuse aussi. On peut pas faire autrement que de danser là-dessus, non, quoi,
oui,
j'imagine.
C'est
non,
vrai.
C'est pour danser.
Avec ses fesses.
Notamment. Si Céline danse très bien.
Si Romain.
On va vous laisser, on va être très gênant ce qui se passe.
Et 2006, Céline, dans votre carrière, vous jouez dans Meurtrière de Patrick Grandperret.
Ah là là.
Quel souvenir vous en avez ?
Un souvenir merveilleux. Et c'était extraordinaire. Ouais. C'est difficile de rentrer dans le cinéma. Et donc Patrick, qui est parti il n'y a pas longtemps, je pense très fort à lui. Et je le remercie infiniment. Ben, c'est quelqu'un qui avait cette folie, cette générosité-là. Et il a pris alors qu'il avait l'opportunité de faire tout à fait autrement. Et c'est plus aidant pour les films de prendre des gens qui ont déjà tourné. Il a choisi deux actrices qui n'avaient rien fait et il nous a fait ce cadeau-là. Il nous a fait rentrer.
Ouais.
Vous avez déclaré, c'est dur de s'auto-proclamer actrice. Vous avez eu quoi, un sentiment de légitimité au début ?
De illégitimité, vous voulez dire ?
Ou de légitimité, j'ai dit. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que je suis actrice ?
Ouais.
Est-ce que j'en suis capable ?
C'est difficile, ouais. Mais c'est une question de... Maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai accumulé un peu d'entraînement.
C'est le syndrome de l'imposteur, quoi.
Ouais, c'est une place difficile, parce que c'est une place centrale. Donc beaucoup de gens se trompent, parce qu'en réalité, on reste au service d'une histoire, d'un metteur en scène, et on est avec l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a un positionnement un peu bizarre. On est quand même devant, dans la lumière, donc difficile.
Oui, il y a un côté individuel, mais dépendant de tout ce qu'il y a autour.
En fait, c'est très collectif, hein, ouais. Parce qu'on même jouer, on fait pas grand-chose sans ses partenaires, ni même sans l'équipe, ni même sans l'histoire. Enfin, je veux dire, en vrai, c'est pas si individuel que ça. Mais je sais plus ce que je voulais dire.
Ouais, en tout cas, faire son entrée dans le cinéma avec Grandperret, et c'est continuer avec Sofia Coppola.
Oui, c'était marrant.
Mais ouais, vous incarnez une dame de compagnie, je crois, dans Marie-Antoinette.
C'était génial. Il y avait aucun enjeu. Ouais. Moi, j'ai fêté mes 25 ans avec eux. Francis m'a parlé de vin, Francis Ford qui était là, des fois il passait, tout, c'était trop bien. Et nous, on n'avait pas d'enjeu.
Vous parlez boucherie avec Jacques Audiard et vin avec Francis Ford Coppola.
Ouais. C'est trop bien, ouais. Et on était avec une Américaine qui s'appelait Yo Bottoms, on était deux dames de compagnie, et on n'avait aucun enjeu, on était comme de la figuration de luxe, mais on était à un mètre de Kirsten tout le temps, et on lui portait ses chaussures.
Kirsten Dunst.
Ouais, Kirsten Dunst, ouais.
C'est Converse.
Ouais, c'est Converse, tous ces trucs-là.
Dans Marie-Antoinette.
Ouais, il y a des converses, un plan de converses.
J'ai oublié.
Mais c'était du coup, on était hyper privilégiés, c'était génial.
Et dirigé par Sofia Coppola, du coup observé Sofia Coppola plus.
Ben, c'était génial, franchement. Elle, ce qui est fabuleux avec elle, c'est qu'elle a aucun problème de pouvoir, évidemment. Donc tout ce qui se passe est très...
Évidemment, parce que dynastie, parce que grande famille.
Ben oui, c'est son héritage, c'est comme ça.
Ça pourrait être l'inverse aussi, c'est-à-dire la pression de ne pas décevoir parce qu'elle est fille d'eux.
Ouais, ben en fait non, ça ne lui fait pas ça à elle. Elle était très très comme ça, hyper calme, hyper...
Dans cette même période, Romain Duris, vous écoutiez... Je vois bien aimer les Talking Heads aussi.
Ouais.
Un genre de musique.
Ouais.
Youfie avec Pop the Glock. Vous avez quelles images en entendant cette musique? Pourquoi l'avoir choisie à ce moment-là? Ça vous renvoie
de la
quoi
danse. Ah, je sais plus quel film, à quelle époque c'était.
Molière.
Là, on est
Molière.
En 2000. On est
Laurent
en 2006.
Tirard.
Ouais, je vois pas forcément de
rapport ouais.
Peut-être le costume.
Ouais.
Non, vous avez dit 2006, pour moi c'est cette musique-là.
Ouais, ouais, oui, oui, c'était un label, Headbanger, qui est un label français, qui a plusieurs artistes, dont fait partie Afi, et c'est de l'électro, électro, hip-hop, funk, je sais pas comment l'appeler. Et ça, j'aimais beaucoup.
Et tout d'un coup, vous incarnez Molière.
Voilà, et Molière, il a ça en lui. Hein.
Il a forcément, forcément.
Bien sûr, il est dans
c'est
son
un peu
époque.
C'est un peu Vernon, quoi, Molière, en fait, en décalé. Vous n'aviez jamais fait de théâtre, vraiment.
Ouais.
Et là, vous incarnez tout d'un coup un personnage...
Ouais. Bah, il faut foncer dans ce cas-là. Hein.
Ouais, faut pas
je suis allé à la Comédie Française, j'ai regardé ce buste de Molière et j'ai dit, ok, d'accord.
Comment ça?
Bah, comme vous dites, j'avais jamais fait de théâtre, ouais. Donc j'ai cherché un peu des sensations, mais je voulais pas me mettre le trac ni la
nerveuse. Vous êtes allé le défier
Je vais le voir et je vais dire, bah disons...
Il a pas de jambes.
Jean-Baptiste. Eh, j'y vais. Un problème.
Non, mais évidemment, faut pas trop penser à l'attente. Mais comme Vernon Subutex, c'est pareil. Hein, quand d'un coup, beaucoup de gens connaissent
ouais.
et lisent et ont ouais. des imaginaires qui se sont développés, et qu'après, on va jouer les personnages, il faut rentrer dedans, il faut proposer quelque chose. Parce que si on veut plaire à tout le monde, c'est pas possible.
À la ouais. différence qu'il a pas de physique. Vernon Subutex, ça reste un bouquin
ouais,
à la base.
Mais
ouais. Molière, on n'a pas trop de vidéos non plus, quoi.
Non, mais on voit quand même.
On sait à quoi il ressemble.
Ouais, voilà.
On sait à quoi il ressemble.
Vernon, il a les yeux bleus dans les livres de Despentes.
Ouais. Si ouais. ça vous intéresse, mercredi à la Maison de la Radio, Headbanger en symphonique.
Voilà.
L'Orchestre symphonique de Radio France
okay.
va reprendre Headbanger
ici.
En symphonie, ici, mercredi. Vous êtes notre invité si vous le souhaitez. En 2011, Céline Salette, vous écoutiez. Très dance floor.
Très dance floor.
C'est mieux, on va pas chialer, non?
Ah, il y en a qui arrivent avec des musiques
tristes.
C'est bien ça quand même.
C'est qui?
C'est bien Black Eyed Peas.
Et alors cette chanson, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus vieille en fait, non? Hein, c'est marrant, non? J'ai l'impression qu'elle a toujours été là cette chanson.
Ouais.
Et 2011, Céline, vous êtes belle cuisse dans la Polonie.
Ah, passion.
Passion belle cuisse.
Passion belle cuisse. Ouais,
oui.
Ouais, c'était extraordinaire comme expérience.
C'est un rôle
trop,
qui vous fait déjà
belle
découvrir.
Belle bande de filles. Ouais. C'était extraordinaire. Ouais.
Franchement,
ouais. Adèle Haenel. Ouais. État de grâce, non, toute la bande. Franchement, on était un peu, on a un peu volé. On était 12, on s'adorait, on était en passion les unes pour les autres. Et puis Bertrand nous avait
Bonello.
Réunis comme ça, en nous choisissant, je pense, assez attentivement. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de rivalité. C'est quand même un truc hallucinant. Arriver à réunir 12 nanas sans qu'il y ait de. Et donc il y avait. C'était,
parce que
c'était
c'est plus dur l'amitié entre filles ou entre comédiennes, dans le cas est plus difficile qu'entre comédiens.
Non, je crois pas, mais je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que.
Oui, non, mais on peut imaginer une concurrence, on peut imaginer une,
ouais,
une,
voilà,
une volonté
c'est-à-dire...
d'être plus dans la lumière que
ouais,
la voisine.
On est quand même. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est aussi un peu comme à l'école, quoi. Il y a un jour où on a mis nos robes et on a toutes fait « Ah non, la tienne est mieux que la mienne, non mais non, c'est toi la tienne qui est mieux !» Et on a compris qu'en fait, c'était un principe, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de ce qu'a l'autre, c'est tout. En fait, nos robes étaient très belles et ça allait très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir l'intelligence collective à 12 de comprendre que ça va ton... Enfin, ouais, c'est comme ça.
Que ça va le faire, quoi. C'est pas
ouais,
la...
ça ouais, va, c'est quoi, ça va, c'est bon.
2011, c'est Bonello. C'est Bonello, mais c'est aussi... Philippe Garrel et Clint Eastwood. Parce qu'on ouais. parle à chaque fois des collaborations après Sofia Coppola, Clint Eastwood. Alors on discute de quoi avec Clint Eastwood?
Alors figurez-vous qu'il a fait une très bonne blague sur les accordéonistes au déjeuner. Il a dit qu'est-ce qu'un bon accordéoniste? C'est un accordéoniste qui ne joue pas. Voilà, ça c'était la blague de Clint au déjeuner. Et sinon, on ne peut pas dire que je joue dans son film. Il était allongé par terre, il m'a fait un top comme ça avec son doigt. Bon, les gens, c'est la radio, on ne peut pas voir, mais bon, il m'a donné un
go.
Top go
ouais,
avec son
toi.
Doigt.
Ouais.
Et là, j'ai servi une tasse de thé. Il n'y a que ma main est dans le,
ouais,
dans
bon.
Le champ. Hein. Je sais, une tasse de thé. Voilà. Et comme je faisais très bien rien, il était très content, je pense. Non, mais quand il y a un petit rôle comme ça, il ne faut rien faire. Il faut vraiment juste servir une tasse de thé, c'est tout. Quoi.
Oui,
pas d'enjeu. Il ne
faut pas chercher à marquer l'histoire
non,
du
pas,
cinéma
exactement.
Par le mouvement
non,
qui va tout
ouais,
bouger.
Non, il faut juste servir.
Il ne faut pas louper le doigt quand même.
Pas louper le doigt, mais moi j'étais un peu rivée à son doigt.
Il faut pas se brûler non plus. C'est très, très
c'est
délicat.
Technique, hein.
On va rester sur le dance floor avec Romain Duris. En fait, on a deux DJ aujourd'hui. pour vos soirées. Céline Salette et Romain Duris, programme.
Mais Romain, toi, t'as été DJ.
Par plaisir, oui.
Sauf que là, Billie Jean, vous le mettez dans votre bande originale en 2006, alors que...
Bah, il est mort.
La chanson a quelques années, oui, mais vous avez choisi celle-là.
Ouais, 2011, ça fait du bien de l'entendre, celle-là.
2011, pardon.
Je le vois, là, marcher... Le moonwalk, là, je...
Sur les dalles qui s'illuminent.
Il est extraordinaire. Et on s'en est pas rendu compte, nous. C'était l'année où on tournait l'arnaqueur. Il a disparu. Et comme à chaque disparition, on est un peu sous le choc. On se rend pas vraiment compte, quoi. J'ai l'impression que c'est après qu'on mesure...
Oui, mais on pourrait dire ça pour Prince, pour Bowie.
Bien sûr, mais je le dis pour Prince, pareil.
Bowie, et... d'ailleurs, il y a une référence dans Vernon Subutex sur la vision, la pochette.
Ouais.
Avec Céline Salette.
Avec la hyène.
5 millions de spectateurs en France, l'arnaqueur de Pascal Chaumeil, et une vie qui change aussi, j'imagine.
La mienne ?
Ouais, forcément, parce que...
C'est-à-dire qu'on a commencé à me reconnaître dans les pompes à essence, ce qui ne m'arrivait pas jusqu'alors.
Ouais. C'est un signal, c'est vrai.
C'est ça que ma vie a changé pour ça ?
Je pense qu'en termes de notoriété, tout d'un coup, on est un peu moins tranquille.
Dans les pompes à essence.
Que les pompes à essence.
Les familles.
Ouais. Notre public, c'est un truc plus populaire, quoi, tout d'un coup.
Ouais. Mais ça va, hein, enfin, je veux dire, on gère.
Vous continuez de faire le plein de votre moto et...
Oui, je continue à aller dans les pompes à essence.
Et est-ce que vous êtes allé dans ce film, dans ce projet, parce que c'est une comédie, c'est en effet très, très populaire, enfin très ouvert, est-ce que...
Oui, ça faisait peur.
Ouais, vous êtes allé confiant, non pas du tout. Ouais.
Non, ça faisait peur parce que le squelette était bien, ouais. Hein, le scénario marchait très bien, l'arnaqueur, mais... quand on se dit que c'est destiné à faire beaucoup d'entrées, ouais. Il y a une espèce de, on peut avoir peur du formatage, du côté un peu calibré, genre on va plaire à beaucoup beaucoup de gens, ouais. Et du coup être moins exigeant sur certaines choses. Mais après on s'est mis à table, on a travaillé le scénario avec les tempéraments de chacun, de Vanessa, de François Damiens, de Julie Ferrier, et le metteur en scène a eu cette intelligence de prendre chacun, les goûts de chacun, les remarques de chacun, et du coup on a amené un peu d'âme à un scénario qui était très efficace, mais qui manquait peut-être à la base d'humanité, de sensibilité, de, voilà, ouais. De caractère des personnages.
Oui, parce que dans votre film, c'était vraiment une première dans ce genre-là.
Oui, il y avait un ton qui était différent, ouais. La pure comédie, qui est d'ailleurs très, qui est pas facile à réaliser, j'avais jamais fait.
On va revenir à Vernon Subutex et à ce milieu du vinyle, du disque, du rock, cette série qui démarre le 8 avril à 21h sur Canal. Avec vous, Christian Edlin, merci de venir à ce micro. Bonjour, vous êtes écrivain, journaliste, auteur de nombreuses bios, dont la dernière sur Indochine, ainsi que de nombreux ouvrages sur le rock, dont Punk, les 100 albums cultes. Pour revenir sur le côté punk, est-ce que Vernon Subutex, vous le qualifieriez de punk ?
Ah, tout à fait, parce que c'est le départ. Hein. Ouais. La première phrase de la série, c'est « on s'est pas rendu compte du changement avec l'arrivée du CD ». Et ça correspond aux années 94-95, après l'explosion de Nirvana, qui était le groupe qui conciliait le punk rock.
Ouais, c'est ça.
Non,
ouais.
Nirvana était le seul groupe consommé par les amateurs de punk rock, les gens qui ont acheté les Ramones et les Sex Pistols, et les amateurs de hard rock, ceux qui écoutaient Led Zeppelin et Black Sabbath. Donc c'est vraiment un moment clé dans l'histoire. Et dans les années 90, vous avez des groupes punk, on est déjà dans la troisième ou quatrième génération du mouvement punk, vous avez des groupes qui vont vendre des millions de disques, des groupes américains. Green Day, Offspring ont vendu des millions d'albums. Donc dans les années 90, ça pouvait pas se passer à un autre
certains
moment.
Certains punks vont être choqués que vous mettiez Offspring dans la catégorie, ou Green Day, c'est du rock.
S'ils connaissent pas l'histoire, c'est pas mon problème.
J'entends, c'est du rock très...
Il a une crête, le chanteur de Green Day.
Oui, oui, bon, on va pas s'arrêter au look pour qualifier...
Ah, c'est très très important, le look.
Sinon, Desireless et punk, à ce moment-là.
La crête, ce sont les punks qui ont amené la crête dans l'imagerie. Alors, c'est une coupe de cheveux qui vient des GI, parce que c'était la mission... on pensait qu'on n'allait pas en revenir, donc on marquait le coup, on se rasait la tête et on faisait une crête comme ça. Et c'est quelque chose de très important. Quand Robert De Niro dans Taxi Driver va avoir une crête dans cette scène, c'est à cause du punk rock. C'est pas gratuit. Donc les codes sont très très importants.
Pour en venir au personnage de Vernon Subutex, est-ce que vous y avez reconnu des
plein,
disquaires
plein
que vous avez connus, vous ?
L'errance de Vernon dans la série, elle est à rapprocher avec l'errance d'un Daniel Dark dans les années 90, avant qu'il revienne avec un album en 2004. Vous avez quelqu'un qui va marcher dans la rue comme ça, qui va rencontrer des gens qui le reconnaissent, qui le connaissent. Daniel Darc, c'était l'ancien chanteur de Taxi Girl, ouais. Donc il avait eu un énorme succès dans les années 80. Il y a une petite période un petit peu de d'errance. Et là,
son binôme Mirwais, lui, s'est mis à produire les albums pour Madonna et faire des succès mondiaux.
Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de rapports. Avec ce Daniel Darc, en plus avec ce rapport de Paris, le 19e, le 20e arrondissement, c'était des quartiers de prédilection avec lui. Et vous avez aussi des, il y a des gens qui ont disparu tout simplement, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Quand vous prenez l'histoire d'un Alain Kahn, qui était le chanteur d'un groupe qui s'appelle Gasoline, qui a joué à l'Olympia en 78, le guitariste était Fred Chichin pour les auditeurs. Alain Kahn, on ne sait jamais, on sait pas réellement ce qu'il est devenu. Il a disparu un jour, comme ça. Voilà.
Donc, c'est ce qui fait... on a l'impression que ça appartient à un autre monde de la musique. Ces morts, ces disparitions, ces histoires de drogue. Et c'est totalement une autre génération.
Ça peut être actuel. Les légendes, elles se construisent aussi en direct. Là, je vous parle de celles qui sont dans le passé par rapport au film. Le punk rock, il naît en 77. Le film se passe au milieu des années 90. Bon, mais les légendes, ce sont les légendes urbaines. C'est ce qui fait toute la beauté, toute la romance et toute la mythologie de l'histoire du rock. On parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, c'est Internet, ça n'existe pas. Donc le magasin de disques, il est très fédérateur. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que Virginie Despentes, à la fin des années 80, elle travaille dans un magasin de disques à Lyon. Mm-hmm. Elle est disquaire, c'est ça, elle vient de cette culture-là. À Rouen, vous avez un magasin comme Mélodie Massacre, c'est là où les Dogs ou les Olivenstein, tout le monde se réunit. À Paris, vous avez Neurose, vous avez eu Music Box, vous avez Rough Thread dans les années 90. C'est très important, le magasin de disques, c'est là où on va trouver des copains pour aller au concert.
Ouais, c'est surtout là où il y a un disquaire qui sera prescripteur et qui va dire, je te conseille, puisque tu aimes ça, je te conseille d'écouter ça, ou tel batteur de tel groupe que tu aimes se retrouve sur tel autre album, donc tu devrais l'aimer, et ainsi de suite.
Tout à fait.
Ouais. Et ça, on a perdu ça, la prescription et le rapport humain.
Bah c'est compliqué, c'est ce maintenant. C'est compliqué parce que les gens vont commander plutôt sur Internet. Voilà.
Est-ce que comme dans Vernon Subutex, il y a des artistes du style Alex Beach qui ont trahi entre guillemets leur...
Le meilleur exemple, c'est l'histoire de Plastic Bertrand. Plastic Bertrand, quand il est gamin, il joue dans un groupe qui s'appelle Hubble Bubble. Ils sortent un album, c'est un groupe punk rock. Il s'appelle Roger Junior ou Roger Jouret, il a les deux noms. Et un jour, il passe à la télé, ils font une télé, les Rendez-vous du Dimanche, qui est assez connu, Jacques Martin, bon. Et puis, c'est un batteur-chanteur. Et Lou de Prégic, qui est un producteur, qui fait des coups, qui enregistre des chansons. Il voit ce mec...
Lou and the Hollywood Bananas.
Exactement, voilà. Lou de Prégic va imiter Roger Jouret du groupe punk qu'il a vu.
Roger Jouret étant le vrai nom de Plastic Bertrand.
Voilà. Et il va avoir une voix un petit peu nasillarde comme ça, il va enregistrer la chanson « Ça plane pour moi », et puis au dernier moment, Lou de Prégic, il a déjà 35 ans, il est barbu, il a une moustache, il va dire « je vais pas mettre ma gueule sur le 45 tours », il va contacter Plastic Bertrand, qui s'appelle Roger Jouret alors, « tu peux pas poser pour la photo du disque ?» Et ouais, super, ça me fait un petit peu de sous. Et le 45 tours sort. Alors, faut savoir que Plastic Bertrand, c'est pas un hasard le nom. Il y avait un journaliste belge qui s'appelait Bert Bertrand, sorte de Pacadis des années 70 en Belgique. Bon, et le 45 tours sort. Le problème, c'est qu'il va marcher le 45 tours. Le problème, c'est que les programmateurs radio le veulent. Et vous avez une émission télé en France un dimanche qui dit envoyez-le le Plastic Bertrand. Donc Lou de Prégic complètement affolé. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas y aller. Il rappelle Roger Jouret. Tu peux pas devenir Plastic Bertrand pour une télé
en playback.
En playback, ouais. Voilà. Bah oui, si, pourquoi pas. C'est encore mieux payé que la session photo. Et ça va être un début d'une folle histoire parce que la chanson va être un carton énorme. Si vous citez, quand vous parlez au Sonic Youth, un groupe de rock américain, quand vous parlez à des étrangers, ils connaissent Ça plane pour moi. Ça va avoir un succès mondial. Et Roger Jouret, qui va devenir Plastic Bertrand, va passer 2 ans à faire le Ça plane pour moi en Australie, aux États-Unis, en Angleterre. Le disque sortira partout, il s'en vend des millions de copies.
Alors, c'est pas lui qui chantait sur le disque, pour l'anecdote, il a fini par chanter réellement.
Oui, mais je vous ai raconté que quand il est avec Hubble Bubble et qui fait la télé Les Rendez-vous du Dimanche, c'est lui qui chante et Lou de Prégic s'en inspire. Donc, c'est encore plus un complexe. Taré. Donc, ça, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui a un peu retourner sa veste parce que les Hubble Bubble, c'était des violents et puis Ça plane pour moi, c'est de la pop punk, quoi.
Si un jour on m'avait dit que j'allais me passionner pour l'aventure Plastic Bertrand, j'aurais jamais cru, mais merci.
Elle est bien racontée surtout, elle est bien racontée. Nos futurs, c'est Christian Hudling qui signe Punk, les 100 albums cultes chez Grunt. Salut à toi l'ami, comme dirait Beru, merci d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, quelle heure sera-t-il ? à 2h dimanche matin.
Ah là là, j'en sais rien, Nagui, foutez-moi la paix. J'ai jamais été capable d'y comprendre quoi que ce soit. Je sais juste qu'en 2021, alors que Michel Drucker annoncera qu'il repart pour 15 saisons de Vivement Dimanche, le changement d'heure, ce sera fini. On a 2 ans pour décider si on reste en permanence à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Enfin, nous, c'est Macron qui décide. C'est lui le maître des horloges. Ouais,
mais nous, on sera toujours à l'heure à midi. Soyez les bienvenus avec les Lacadons.
Bonjour à tous.
Daniel Moura.
Bonjour Nagui.
Albert Algou.
Bonjour Nagui.
Alex Inis.
Bonjour.
Tanguy Bastureau. Et nos invités Céline Salette et Robin Duis.
Bonsoir.
Dans cette bande originale, il y a Vernon Subutex qui a lui aussi sa bande originale.
On n'est pas genre de mec, on rentre sur la plage. Quand on veut nous trouver, faut chercher dans les caves. On préfère la nuit à tous les éclairages. Elle nous permet de masquer nos ravages. On n'est pas les anges.
C'était bien mieux avant. Tiens, ça va bien, ça aussi, avec ce qui se passe dans la tête de Vernon Subutex, ce disquaire, qui, avec l'arrivée du CD, du numérique, se retrouve à la rue, loyer impayé, il doit fermer boutique. Il ferme boutique, il perd un peu ses repères, il perd ses amis, il perd sa vie sociale, il perd de quoi tout simplement se loger, nourrir, se laver. Ça donne une scène d'ailleurs assez... assez belle entre Céline Salette et Romain Duris. À vous de découvrir cette série à partir du 8 avril 21h. Justement, Romain Duris, est-ce que vous êtes inspiré? On entendait là à l'instant Daniel Darc ou encore Les Vierges. Est-ce que vous êtes allé chercher dans des images, dans des icônes du
oui,
rock pour jouer votre personnage?
Oui. Il y a plein de documentaires, il y a plein d'images, il y a plein de sons qui sont inspirants. Il y a évidemment Kurt Cobain, avec des images, on peut vraiment avoir accès à de l'intimité, de la détresse et de la poésie. Je cherchais ça pour Vernon. Il y a une espèce dans le rock et dans l'extrême, il y a quelque chose avec Kurt Cobain qui
Mais
qui,
alors vous cherchez quoi? Une posture, un regard?
Non, une fragilité. J'ai l'impression que c'est des tempéraments très entiers, très, très, très purs, très authentiques. Mais en même temps, qui sont traversés à des moments par une grande fragilité et qui peut les mettre complètement à côté, en dehors de la société, parce que c'est pas prévu pour ces gens-là. Mmh. Et donc, il y a le rock au milieu de ça, la création. Et donc, il y a de la poésie, je trouve, mais pas chiante. C'est toujours habité, c'est toujours des personnages qui vont à fond et ils se brûlent.
Celle qui a bien suivi l'évolution de la société, la hyène, qui est dans l'ère du numérique, qui est dans l'ère du buzz, de la rumeur, du clic, de faire et défaire les réputations des uns et des autres, elle en est pas moins rock. Elle est par moments violente, par moments extrêmement tendre, mais c'est une forme de protection quand elle est violente ou agressive avec celle qu'elle séduit.
Ouais, avec celle qu'elle séduit, bien sûr. Après, avec le reste du monde, c'est juste elle exerce sa puissance, en fait. C'est ça qui est extraordinaire d'en jouer ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est en pleine puissance. Mm-hmm. Donc c'est assez rare, finalement.
Et qui en a conscience.
Ouais, absolument.
Elle doute pas. Hein.
Et qui en jouit, enfin, ouais. Je veux dire, tranquillement. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai que la rencontre avec cette Anaïs, jouée par Flora Fischbach, va petit à petit, hein, pas tout de suite, parce que d'abord, il y a un rapport de désir premier, enfin je veux dire, je la veux,
ouais.
Je veux.
Très primitif, ouais.
Et elle ne sait pas si elle est homosexuelle, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas si... À un moment donné, vous dites, toi t'es bi, t'es ouais. Bitou, et puis à la fin t'es bizarre, quoi. Enfin, c'est tous les bi possibles et imaginables, tellement elle ne sait pas comment l'appréhender. Le rapport est particulier entre les deux filles.
Ben oui, bien sûr. Anaïs, c'est un personnage qui va rentrer dans l'homosexualité, donc féminine. Donc c'est vrai que c'est un chemin, j'imagine.
Ah oui, mais c'est intéressant justement la façon dont elle y rentre. C'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve beau aussi chez Despentes, c'est son rapport à l'autre, au sexe. C'est-à-dire que, en gros, en voyant la série ou en lisant le roman, on comprend que finalement Anaïs va succomber parce que tout d'un coup, elle va être fascinée, elle va être attirée par un individu plus que par un sexe.
C'est ça. Mais c'est là où la sexualité dans le film passe d'abord par l'esprit, avant de passer par les corps.
Et en même temps, elle est entièrement habitée par les corps, parce que c'est aussi une série hyper charnelle, je trouve.
Ouais.
Moi, on s'est livré pas mal, mais c'est vrai que moi j'appréhendais un peu le résultat. En fait, c'est hyper beau, c'est très beau. Mais on travaille aussi avec une équipe de dingue. Elle, Cathy, elle avait réuni David Chizalet, qui est un chef-op dément. Enfin,
qui suivait tout, quoi. Qui...
Ouais, l'équipe était démente.
Ça se sent en tout cas, hein. C'est, j'allais dire, c'est léché comme travail. Je sais pas si c'est le meilleur mot à dire dans ce moment-là. Mais en tout cas, c'est le cas. Et ça sera à partir du 8 avril, 21h, sur Canal. Tanguy Pastureau, c'est l'heure! Tanguy, donc, ce week-end, on change d'heure.
Oui, à chaque fois qu'on le fait, j'ai la sordide impression d'être un con, un abruti juste bon à bouffer de l'avoine. L'an dernier, je suis allé de moi-même à Vincennes voir si je pouvais courir dans la cinquième. Parce que mes proches désespérés, qui pensent on aurait mieux fait de se coller avec Ribéry, il a le cerveau moins grippé de cette buse. On peut me dire c'est facile, demain à 2h, il sera 3h ou le contraire, j'y capte rien. Et c'est toute la confiance en moi accumulée sur l'année qui s'effondre. Mais si j'étais sur Mythique, j'écrirais sur ma fiche, je suis un idiot, prenez quelqu'un d'autre, n'importe qui est mieux, à part quand même Francis Homme qui a montré à quel point il était excessif dans son rapport aux autres. Et aux rares personnes qui chercheraient à me contacter, j'enverrai une photo du pénis du maire du Havre, en faisant croire que c'est le mien et que je suis un mec vulgaire. Bah, tout le monde n'y verrait que du feu, en dehors de la ville du Havre où chacun a un jour reçu eh bien, une photo de ce pénis, hein, puisque localement il y a trois stars, Édouard Philippe, le rocker Little Bob et le pénis du maire du Havre qu'on appelle également Little Bob. Ainsi, dimanche à mon réveil, alors que mon corps reposé sera plus félin que jamais, si on prend comme point de repère Fifi, le vieux tigre pelé du zoo de Beauval. Je sais pas l'heure qu'il sera, j'ai renoncé à comprendre. Je vis comme Néandertal. Quand il fait jour, je me lève, je pars à la chasse, hein, c'est-à-dire que j'achète des croissants à la boulangerie. La boulangère me dit « Alors, vous avez enfin parlé de moi à Nagui ?» Moi qui suis en jet lag, je pète les plombs et me mets hurler « Mais il s'en fout de toi, Nagui Malout, il est pris, il est avec Didier Deschamps !» Là, dans la boulangerie, tout le monde murmure « Purée, j'en étais sûr !» Et le soir, quand il fait nuit, je me rentre. Mais tout ça, c'est bientôt fini, puisque les eurodéputés, ces gens qui viennent de partout jusqu'à Bruxelles pour y pioncer, ont voté la fin du changement d'heure. Fini l'heure d'hiver, l'heure d'été, la France ne va plus être qu'un long ennui monocorde où les vaches, qui ne seront plus perturbées par quoi que ce soit, vont donner plus de lait, noyant l'hexagone sous des tonnes de Kinder Pinguis que dévoreront des enfants là, au regard vide. Parce que le changement d'heure, ben c'était un repère. L'hiver, il fait nuit à 16h20, et on déprime. Non, donc pour les riches, on va parler à son psy du fait qu'en 84, on a surpris sa mère faisant pipi debout. À l'issue de 16 ans de psychanalyse, on arrive à la conclusion qu'on n'avait pas ses lunettes cette nuit-là et qu'en fait, ça devait être son père. Pour les pauvres, on écoute du Mylène Farmer en suçotant des Xanax. L'été, au contraire, il fait jour jusqu'à 22h30. Tout est solaire, suave et chaud. Même à Dijon, si on ferme les yeux, on a l'impression d'être en Californie. Puis on les rouvre et on est à Dijon. Donc si on est riche, on appelle son psy pour savoir si on peut reprendre plus tôt. Si on est pauvre, on écoute, en suçotant des Xanax, la playlist Suicide par pendaison sur Spotify, qui inclut des titres de Léo Ferré, Eddie de Préto, ainsi que des chroniques de Nicolas Douze de BFM TV sur la croissance qui repart pas. Heureusement, entre chaque chanson, il y a la pub pour la quinzaine de la merguez au champ qui est très rigolote, hein, parce que comme on est pauvre, on n'a pas pu s'abonner à l'option premium.
Bon, ça veut dire que dès 2021, on passera définitivement à l'heure d'été.
Alors non, puisque les Français sont prononcés à la majorité pour l'heure d'été sur le site de l'Assemblée, et qu'en général, les politiques font le contraire. Hein, souvenez-vous du référendum sur l'Europe, on avait dit non, les mecs avaient entendu oui. Hein, chez Audica, ils s'étaient dit, la vache, là, quand même, il y a un marché. Et comme l'Europe qui décide, mais sans trancher, hein, c'est François Hollande qui serait réincarné en zone géographique, laisse chaque pays faire comme il veut, ça va être le dawa, comme disait Passy en 97. Si en France, on reste à l'heure d'été et qu'en Allemagne, ils choisissent celle d'hiver, partant du principe que sur Angela Merkel, il y a déjà suffisamment de couleurs, les transfrontaliers, chaque matin et soir, vont se prendre 2 heures de décalage horaire dans la face. Ils vont tomber malades, être livides. En 15 jours, le travailleur qui ressemble à Ryan Bensetti aura la tête de Jean-Yves Le Drian quand il est en manque de sucre. Et tiens, parlons-en de la Bretagne. Le Drian est breton. Hein, s'il avait été de la région PACA, j'avais pas de transition, mais le monde est tellement bien fait. Si on reste à l'heure d'été, en décembre, à Brest, le jour se lèvera à 10h06. En même temps qu'Alan Stivell, quand enivré par Chouchen, il a passé la nuit à jouer de la harpe. Or, Brest, je connais un peu le coin. Même avec 27 degrés, du soleil et les mouettes qui se foutent sur le dos pour chiller, c'est pas la joie. La phrase « Tiens, si on allait faire le spring break à Brest » n'a encore jamais été prononcée. Donc là, avec la nuit qui dure jusqu'à 10h06, ensuite il y a les nuages et à 17h à nouveau la nuit, les gens vont vivre dans le noir. Ça va être une burqa naturelle. Bref, heure d'été, d'hiver, comme sur la plupart des sujets, j'ai pas d'avis tranché. C'est ce qui fait de moi un piètre humoriste de France Inter. Je sais juste que j'y comprends rien.
Merci Tanguy Pastureau.
France Inter.
Il a raison, n'empêche. Ouais. Il a raison, il faut juste se mettre à l'heure du soleil, hein, ça serait plus simple.
Non, t'as pas d'avis là-dessus. Non, moi, je sais simplement que je vais dormir une heure de moins, ça m'angoisse. Ouais.
Ce week-end.
Bah oui, mais enfin, ouais. C'est quand même important.
Bah commence maintenant.
Vernon Subutex sur Canal. Et vous avez fini par lire le roman ou pas? Parce que vous avez dit que vous l'aviez posé dans un coin et pas ouvert.
Ouais.
Vous l'avez lu après avoir tourné?
Non,
avant donc.
Ah, oui.
Avant. Et là, est-ce que c'est troublant? Parce que souvent, les auteurs nous disent qu'une adaptation au cinéma ou à la télé, c'est une trahison entre le roman et l'image, entre guillemets. Avez-vous ce sentiment-là, justement, que...
Non, je pense pas.
Il fallait quand même changer des choses.
L'image apporte quelque chose d'autre que l'écrit n'a pas. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est réussie, la série de Cathy Vernet, c'est que... On se pose très tôt plus la question. Et on est pris dans de l'image et dans un rythme qui est différent du livre, qui raconte autre chose, enfin, qui est différemment la même chose. Et avec
c'est joli ça, c'est différemment la même chose.
Ouais. Et ouais, je trouve que pour avoir parlé à plusieurs personnes qui l'ont déjà vu, on s'éloigne de la trilogie des Pentes et juste on est dans le plaisir de regarder ces personnages et ce Paris et cette musique.
Moi
j'arrive. Vous vouliez dire, Céline?
Non, je voulais dire que j'ai toujours pensé que nous on faisait un hommage trivial, un hommage dans le sens où on est tous très très amoureux de l'œuvre de Despentes. Et trivial dans le sens où oui, il y aura forcément une part de trahison et de
c'est le principe de
vulgarisation,
une
enfin en tout cas de voilà.
C'est clair.
Mais en tout cas, on
vulgarisation, ça... il fallait répondre aussi au code de la télé et pas aller aussi loin que le roman.
Mais en tout cas,
non,
pour
c'est
nous,
pas ça.
Reste,
moi, je trouve que ça va loin quand même.
Ah ouais, ça va loin.
Mais... Ça va loin, mais
ça a d'autres nécessités en fait.
Tous ces titres-là que l'on entend sont dans la série, je tiens à le dire.
Ouais, elle est hallucinante.
Il y aura une BO qui va sortir.
Il y a une BO, ça y est.
Ah, elle est déjà.
Bon, bah ouais, comment on croyait qu'on les passe, non? On l'a, la BO. On l'a. La bande originale. Bien, en plus, on va pouvoir les attaquer, il y a écrit la bande originale dessus. C'est génial,
ah, non ouais.
On va récupérer des droits, nous aussi. La bande originale de la série Vernon Subutex qui passe sur Canal. Ouais, ouais, on fait pas de petits profits. Qu'est-ce qu'il y a? Voici le bilan de la semaine par Monsieur Frédéric Siris.
Enfin!
Alors, cette semaine a eu lieu la journée sans plastique sur France Inter. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'on est des gens bien sur cette station. Ah, je vous écoutais, là, j'étais là. Il paraît que Barack Obama, quand on lui a remis son prix Nobel de la paix, on lui avait demandé quels étaient ses objectifs désormais. Il a répondu, réussir à me faire embaucher par France Inter. Pas parce que c'est ici que tout se passe. Les élections européennes, Bernard Guetta, candidat sur la liste de La République En Marche. France Inter. Raphaël Glucksmann, le mari de Léa Salamé, tête de liste de Place Publique soutenue par le Parti Socialiste. France Inter. Vous voulez prendre le pouls de la politique française, mais faites un tour aux chiottes de France Inter. Des fois, je sors de là-bas, j'en sais plus qu'en lisant Le Canard Enchaîné. C'est incroyable ce qui se passe. Quant à nous, les humoristes, mais j'en parle même pas. On n'est pas prescripteurs de tendance, on est la tendance. On est de tous les combats, on est le couteau suisse de l'engagement féministe, antiraciste, véganiste, trottiniste. À la sortie de mes spectacles, des fois, les gens sont à deux doigts de m'amener des paralytiques pour que je les guérisse par la position de mon badge France Inter. S'il vous plaît, touchez-moi, on est allé voir un repas, je suis reparti avec des mycoses. Il paraît que tu te frictionnes avec une touffe de cheveux de Laurence Bloch, ça refait pousser les tiens.
La directrice de France Inter.
On a un pouvoir, je le dis très humblement, qui parfois me dépasse. Quand je pense que Jésus, lui, il avait même pas de chronique à écrire. Moi, je voyais un an de ça. J'ai écrit une chronique sur la mère de ma ville. Hein, une chronique somme toute champêtre et inoffensive, où je la qualifiais avec une truculence toute rabelaisienne de Kim Jong-un avec un utérus. Bon, on n'est pas là pour discuter de la pertinence de cette vanne. Hein. J'estime ne pas avoir de leçons à recevoir d'un pays qui a porté Christian Clavier au pinacle de l'humour. D'ailleurs, en tant qu'humoriste de France Inter, je n'ai de leçons à recevoir de personne. J'ai un totem d'immunité qui m'a été remis par Philippe Poutou, moi, monsieur. Eh ben, j'étais loin d'imaginer les répercussions de cette chronique, enfin, que cette chronique allait avoir dans ma vie de tous les jours. Parce
qu'est-ce
que depuis cette chronique,
et
c'est véridique, hein, je croise des habitants de ma ville qui me disent « Bravo, monsieur Sigrist, quand est-ce que vous nous débarrassez de la mer ?» Mais jamais.
Jamais désolé de vous décevoir. Je suis pas le chroniqueur que vous imaginez. Je sais bien que Guillaume Meurice, il fait repousser des logements sociaux partout où il marche, mais moi, j'ai pas ses pouvoirs. J'étais représentant des parents d'élèves à l'école de ma fille. Non pas parce que je me suis présenté, mais parce que j'ai pas su dire non. D'ailleurs, je suis devenu parent pour la même raison. Et ben, à une réunion, je me suis fait sauter dessus par l'adjointe à la mairie qui m'a dit qu'elle avait été profondément scandalisée. Elle m'a chopé à la fin comme ça. Elle me fait, vous vous rendez compte de la violence de vos propos, monsieur Sigrist? En plus, résumer une femme à un utérus, c'est terriblement sexiste. Ah, donc c'est l'utérus qui vous a gêné, pas Kim Jong-un. Elle a pari. Et elle m'a même demandé un démenti. Mais j'avais même pas cité son nom dans ma chronique. Je pensais pas qu'en disant Kim Jong-un avec un utérus, quelqu'un allait faire le rapprochement. Qui puis-je? Le problème, et ça je l'ai su après, c'est que l'opposition municipale a utilisé ma chronique dans un de ses tracts. Aïe. Qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de ma ville. Et d'un coup, me v'là devenu le François Ruffin entier de l'Essonne. Quand je vais chez mon boucher, j'entends qu'on chuchote. C'est lui. Il paraît qu'il connaît Nagui. Il y a même une dame l'autre fois. Il y a même une dame l'autre fois qui m'a demandé une place en crèche. J'étais là comme ça, je l'ai regardé. Je sais pas si je peux faire quoi que ce soit. Alors attention, je peux pas répondre non plus à toutes les demandes. Hein. Moi, dans l'immédiat, plier le linge, déjà, ça peut m'occuper un semestre. Donc, diriger la destinée d'une ville. Alors quand je reçois un mail, pas plus tard qu'hier, très gentil au demeurant, m'alertant que le collège de cette même municipalité va remplacer les bacs en inox à la cantine par des bacs en plastique à usage unique. Bon bah c'est sûr, là j'ai envie de monter au front.
C'est pas l'inverse?
Non. Ils ont des bacs en inox, ils vont les remplacer par des bacs en plastique à usage unique. Voilà, voilà. À une époque où t'as tous les jeunes qui défilent dans les rues pour dire voilà, arrêtons le plastique.
Non.
Dans cette ville, ils disent oh, allez hop, on fait le contraire. Alors c'est vrai que là, j'ai envie de monter au front. Je me dis c'est mon rôle. Tu vois, je suis un petit peu comme un obstétricien.
Non, un docteur.
Voilà, un docteur. Voilà. qui verrait une femme sur le point d'accoucher dans un train. Je dis il faut que j'aide, quoi. Ben voilà. Et vous vous rendez compte, des gens qui n'ont même pas écouté la journée sans plastique sur France Inter. Donc oui, je pourrais m'élever contre cette folie. Je pourrais, mais en même temps, je me suis déjà grillé avec ma mairie. Je vais pas me griller avec le conseil départemental. Et puis surtout, imaginez une seule seconde que je puisse détourner le canal du service public pour irriguer mes propres combats locaux. Ça serait vraiment mal me connaître.
Merci.
La bande originale avec Nagui.
Vernon Subutex débarque sur Canal à partir du 8 avril avec Romain Duris et Céline Salette qui sont nos invités. Il y a également Laurent Lucas, Flora Fischbach, Philippe Rebaud, Florence Thomassin, Juana Agosta, Émilie Gavoacan, Ataya Mokonzi, Julie Fournier, Imam Amara Korba, Eloi Ferry, Calypso Valois, Gaël Janté, Inès Rao, qui joue justement Marcia dont nous parlions tout à l'heure, Charles Templone, je sais pas comment il faut prononcer, pardon, Léna Bréban, Jacques Bouaniche et Adèle Wim, entre autres, la réalisation est de Cathy Vernet, qui non seulement a réalisé, mais a fait également l'adaptation du scénario de ces deux tomes, hein, puisqu'il y a...
Trois. Mais là, c'est deux.
Non, là, c'est deux. Ah ouais. Voilà. Cette série, c'est le tome 1, tome 2. Excuse-moi.
Oui, non, pardon, mais c'est que j'aime tellement cette œuvre que voilà.
Ok, très bien. Vernon Subutex, il peut vous donner envie de lire faire l'inverse, c'est-à-dire voir la série et après se dire, ok, c'était quoi le roman et de le lire maintenant qu'il existe en plus en poche. L'avenir pour Céline Salette, le 24 avril, vous serez à l'affiche de Mais vous êtes fou, le premier long métrage d'Audrey Diwan.
Oui, absolument. Un très beau film.
Vous y faites quoi? Ou qui?
Avec Pio Marmaille, mon camarade, on joue un couple qui connaît lui aussi une petite descente aux enfers. Mais c'est un film
Il y a un lourd secret et qui est le...
Ouais, c'est un film sur le secret. C'est vraiment un drame romantique, elle dit ça à Audrey et c'est assez beau. C'est une romance parce qu'il est vraiment question de cet amour familial et de l'amour de ce couple. Et c'est un drame parce qu'il y a un secret qui va venir tout faire exploser.
Et pardon, le secret, c'est un secret dans le couple, dans la famille, pour l'un des... un secret familial.
Ouais.
D'accord. Vous venez de tourner Magari, le premier long métrage. Justement, vous faites beaucoup de premiers, c'est sympa.
Ouais, très sympa.
De croire. Non, mais c'est sympa de votre part de croire et d'aider.
Non, franchement, les propositions sont géniales. Non, mais je le fais que parce que les propositions sont géniales. Hein. Je le fais pas en me disant oh, j'ai pitié, c'est un premier. Non, pas du tout.
C'est la hyène, hein, je vous rappelle. Hein, c'est la hyène.
Ouais, non, mais c'est vrai. Je veux dire, vraiment, je fais que.
Que parce que le scénario est au rendez-vous. C'est un film en français ou en italien? J'ai pas suivi.
C'est un film en italien dans lequel joue une Française qui parle un peu italien. Comme je suis comédienne, je fais bien semblant.
Et les fouteuses? Ça arrive aussi, Mohamed Abidi.
Exactement, avec Kadmerad Alban Ivanov
Sabrina Ouazani.
Entre autres, ouais, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, une autre très bonne bande de meufs avec qui on a tourné ce film qui s'appelle Les Fouteuses.
Ça sortira quand tout ça?
Et ça, milieu d'année, je pense.
D'accord.
Ça veut rien dire milieu d'année, mais bon.
Romain Duris, j'ai rien trouvé vous concernant dans les projets, dans les tournages, dans les sorties. Je suis passé à côté de quoi alors?
Non, de rien. Je sais pas encore.
Non, bah déjà, vous devez savoir, il y a forcément est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez tourné qui va sortir en 2020 ou
Non, on a tourné Vernon Subutex l'année dernière. Depuis, j'ai pas enchaîné. Moi, personnellement, je dessine pour moi, mais j'ai pas trouvé de projet qui m'attire. Enfin, où d'un coup, on se dit, il faut y aller, c'est obligatoire. Donc
Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est votre métier, votre instinct, de savoir lire
un
scénario, un texte?
Ouais, je pense que c'est
assez
évident.
Vous arrivez déjà à voir ce que ça pourrait être à la lecture, parce qu'on te passait.
Ouais, mais comme quand on lit un livre, on voyage dans sa tête, il y a des images qui arrivent. Et on a envie d'être à la place du personnage qui est décrit, voilà. C'est le même. Je pense que ça part de la même étincelle que lorsqu'on lit. Moi, il y a une évidence. Et alors, bon, on n'a pas toujours raison. Hein. Parfois, on refuse des projets alors qu'on aurait pu embarquer et l'inverse aussi. Donc, je sais pas.
Il faut une bonne raison pour lâcher le crayon, quoi.
Ah, pour le dessin, ouais. J'aime bien dessiner. Voilà.
Vous avez sorti un premier
livre.
Album, Pulp.
Voilà, j'ai sorti un livre de dessin. Et là, je suis sur un suivant.
Ah ouais, d'accord. Donc, il y a des projets, mais qui ne sont pas ni au théâtre ni au cinéma, mais en l'occurrence dans le dessin. Ouais.
Voilà.
D'accord. Alexis?
Non, par rapport à Romain Duris, je voulais savoir si par exemple, si Clapiche vous fait une proposition, est-ce que vous allez l'étudier ou de base vous vous dites Clapiche, je tourne avec
non,
lui?
Non, Clapiche, j'y vais, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bah oui, on a tellement d'années. J'aime bien la fidélité dans ce travail. Je sais pas toi, Céline, mais moi j'aime bien retravailler avec des gens.
Ouais. Vernon Subutex, en tout cas, va marquer les esprits. Si vous le regardez, je vous le dis, sachez que vous signez pour 9 épisodes sur Canal à partir du 8 avril 21h. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà désolé pour Céline Sellette qui a subi ce matin un enfer radio culinaire à base de discussions pinard avec François Ford Coppola, ou cheval mort avec Jacques Audiard, ou lasagne placenta avec le futur, mais mythique, j'en suis sûr, Alexis Le Rossignol. Alors si ça vous tente, devant la réactivité de notre cuistot, au menu de la cantine de Radio France aujourd'hui, c'est daube de cheval au placenta sauce pinard. Ça vous tente, moi je vous invite. Désolé pour Vincent Bolloré qui m'a appelé à la pause pour me dire qu'il n'avait rien, mais rien à voir avec monsieur Frédéric Segris, d'ailleurs qu'il ne voulait plus être lié de près ou de loin avec quelconque de tes chroniques. Je sais Vincent, mais il a tellement besoin d'un décodeur gratos, l'Alsacien, il est prêt à tout. Et désolé enfin pour vous, Romain Duris, que j'ai vraiment senti frustré de ne pas avoir pu participer plus activement à notre rubrique autocuiseur et infrarouge. Écoutez, on va remettre ça lundi. Normalement avec Alexandra Lamy et Anne-Marie Vin. Venez faire un son, parlera électroménager et art de vivre.
Et dimanche, qui reçois-tu à 17h pour
l'excellente comédienne Noémie Merlan pour le film Curiosa et Constance pour son spectacle Peau pourrie.
Parfait. Merci Céline Sellette. Merci Romain Duris et bravo pour votre interprétation. Formidable. Déjà, l'ensemble de votre carrière, mais elle est encore plus marquante et agréable dans Vernon Subutex. Passez une bonne journée à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci, bon week-end.